France Culture.
Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. De la mémoire polonaise à l'histoire européenne. Quatrième partie, 2006-2025. Un mémorial universel.
J'ai fait la connaissance récemment de deux étudiants allemands fort sympathiques, des jeunes gens sérieux, à principe. Ils étaient étudiants en lettres allemandes en première année et leur directeur de séminaire, un de mes amis, avait organisé avec ses étudiants une promenade au monument du Hainbund. Mon appartement étant tout à proximité, je l'avais transformé pour la circonstance en café du Hainbund. Et je les avais tous invités. Les deux jeunes discutaient vivement ensemble. J'entendis le mot « Auschwitz ». Non pas comme bien souvent en Allemagne ou ailleurs, comme abréviation du génocide ou symbole politique, mais très concrètement pour désigner un lieu qu'ils semblaient connaître. Je tendis l'oreille, posais quelques questions, mais sans préciser par facilité la connaissance que j'avais moi-même du camp. J'appris ainsi qu'ils venaient de faire leur service civil. Et leur tâche avait consisté à repeindre en blanc les clôtures d'Auschwitz. Oui, la chose était possible. Le service civil au titre des réparations. Je demandais d'un air un peu dubitatif si ça avait vraiment un sens. Il faut bien que le camp soit entretenu, répliquèrent-ils. Certes, ils ne disaient pas beaucoup de bien des touristes. Et il n'était pas non plus très favorable aux visites de groupes scolaires, mais quand même. Il fallait conserver les lieux. Pourquoi donc ?
Auschwitz, le symbole de la Shoah. Des visiteurs, de plus en plus de visiteurs, venus du monde entier. Au XXIe siècle, chacun sait qu'Auschwitz est le lieu de l'extermination des Juifs. On sait parfois que c'est aussi celui des Tziganes. On sait rarement que dans d'autres camps d'extermination, dont les noms sont aujourd'hui rarement prononcés, les survivants se comptent, littéralement, sur les doigts d'une main. À Treblinka, centre de mise à mort où ont été assassinées 800 à 900 000 personnes juives et environ 2000 Tziganes, seules une centaine de personnes ont survécu. À Belzec, sur 500 000 juifs et des milliers de Tziganes déportés, moins de 10 personnes ont survécu. Si Auschwitz est devenu le camp incarnant tous les camps, c'est d'une part parce que les déportés sont venus de l'Europe tout entière. Juifs de Hongrie, des Pays-Bas, de Grèce, de Belgique, de France, d'Italie, de Norvège, de Slovaquie, de Bohême-Moravie, de Pologne, Tziganes d'Allemagne, d'Autriche, de Bohême-Moravie, de France, de Belgique, de Hollande. Mais c'est aussi parce que paradoxalement, c'est le camp où il y a eu à la fois le plus de morts et le plus de survivants. À Auschwitz, en effet, la sélection, isolant les personnes aptes à travailler des plus faibles, a permis à une minorité d'échapper à la mort immédiate. Auschwitz est donc sauvé de l'oubli, mais pas des malentendus, de la simplification, du kitsch. Le site n'est pas non plus sauvé de l'instrumentalisation, dans une Pologne européenne depuis 2004, mais où l'extrême droite, au pouvoir de 2015 à 2023, reste une force puissante. Pourtant, peut-on visiter Auschwitz sans interroger les mécanismes qui l'ont rendu possible ? Sans questionner le rapport de son pays avec la Shoah.
Cette culture de musée repose sur une superstition profonde. L'idée qu'on saisirait les fantômes précisément sur les lieux où ils ont cessé d'être des vivants. Ou bien plutôt, non pas une superstition profonde, mais superficielle, telle qu'en suscitent toutes les maisons hantées du monde. Le visiteur qui se retrouve là et qui éprouve une émotion, ne fût-ce que ce léger frisson d'horreur, se sentira quand même un homme meilleur. Qui se permet de s'interroger sur la qualité des sentiments quand on est fier d'éprouver seulement quelque chose ? Ces vestiges rénovés de terreurs anciennes n'induisent-ils pas au sentimentalisme ? Ne nous éloignent-ils pas en réalité de l'objet sur lequel ils n'ont attiré l'attention qu'en apparence, pour nous entraîner à contempler nos sentiments dans un miroir ?
Refus de témoigner, Ruth Kluger.
Quand vous êtes allé dans les années 90, enfin en 89 et les années suivantes, c'était déjà un lieu de tourisme de masse.
Yes, I think it was 2005 when.
Je crois que c'est en 2005 que le million de visiteurs a été atteint au musée. Et environ 10 ans plus tard, ce chiffre est monté à 2 millions.
C'est-à-dire après la commémoration des 60 ans de la libération du camp ou de l'ouverture du camp. C'est 2005.
Yes, I think so. Somewhere around there. Yes, I think so.
Jonathan Weber, anthropologue.
It gives people something to do when they're tourists in Krakow.
C'est une des choses à faire quand on va à Cracovie. Cracovie a réussi à susciter un grand intérêt touristique. C'est un pays bon marché, agréable, la nourriture et le vin sont bons, l'alcool ne coûte pas cher, vraiment pas cher. En Angleterre, il y a des enterrements de vie de garçon. Ils viennent ici à 25 pour boire de la bière et se saouler pendant le week-end. C'est un problème ici à Cracovie. Alors pourquoi vont-ils à Auschwitz ? C'est une excursion. Vous partez de Cracovie à 9h et à 3h de l'après-midi, vous êtes rentré. Entre-temps, vous avez vu un lieu très impressionnant. Un lieu comme vous n'en verrez nulle part ailleurs. Et puis, c'est un site dont vous avez déjà entendu parler. Tout le monde a entendu parler d'Auschwitz. Pour une somme tout à fait modique, vous avez un voyage agréable et intéressant. D'autre part, l'Holocauste ou la Seconde Guerre mondiale figurent dans tous les programmes scolaires. C'est un sujet obligatoire. Les adolescents qui viennent d'Angleterre, de France, d'Allemagne l'étudient. C'est l'un des événements majeurs de l'histoire européenne du XXe siècle. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Les professeurs d'histoire emmènent donc leurs élèves ici pour leur donner une occasion d'établir un rapport différent avec cet événement. Comme il les emmènerait voir un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a ces gens qui sont attirés par ce qu'on appelle le dark tourisme. C'est devenu très à la mode ces 10 ou 20 dernières années. Au lieu d'aller voir les grandes cathédrales, les chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale, on va voir les sites des grandes tragédies. Il y a maintenant un véritable marché autour de ce genre de tourisme qui propose d'aller sur des lieux terribles dans le monde entier. Il faut bien admettre qu'Auschwitz peut tout à fait s'inscrire dans ce genre de visite.
Donc, il y a une part là-dedans aussi de voyeurisme.
Yes.
Sorry?
Well, voyeurisme.
Yes, it's called, I called it a pornography of violence. A pornography of violence.
J'appelle ça une pornographie de la violence.
They come here because they get excited to.
Ils viennent à Auschwitz parce que ça les excite de voir un lieu où une telle violence de masse a eu lieu. Ils trouvent ça fascinant. Peut-être que d'une certaine façon, ça stimule quelque chose en eux, ça leur plaît, au fond, de venir dans un endroit où il y a eu tellement de souffrances. Ce qu'ils veulent voir, ce sont des camps où des gens ont été assignés à un travail harassant avant de mourir d'épuisement.
Piotr Sivinski, vous êtes directeur du musée mémorial d'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est votre rôle, ou plutôt, comment vous envisagez votre rôle
ici? Non, c'est une énorme question, parce que d'un côté, bon, il y a toutes les différents. C'est presque difficile à dire, parce que d'un côté, il y a l'histoire. Il y a la mémoire aujourd'hui. Il y a l'entretien du lieu de mémoire qui est énorme, qui a plus de 200 hectares. Je veux dire, bon, c'est 155 bâtiments, 300 ruines, etc. Il y a les visiteurs, il y a les médias, etc. Donc, en fait, je crois que d'un côté, il y a tout ce qui concerne, j'allais dire, différentes manières de s'occuper du terrain. Donc conservation, donc tout cela. Et de l'autre côté, il y a quand même cette voie que Auschwitz doit avoir dans le monde d'aujourd'hui. Auschwitz, c'est un endroit qui doit parler. Et je crois que c'est une responsabilité qui est énorme, d'autant plus que les survivants sont de plus en plus rares et que leur voix, même s'ils sont encore parmi nous, c'est une voix qui devient de moins en moins perceptible souvent. Je me souviens au début, il y a je ne sais pas une quinzaine d'années, presque la moitié des groupes qui venaient ici étaient accompagnés de survivants qui marchaient avec eux, qui leur racontaient, qui leur rajoutaient leurs expériences personnelles. C'est quelque chose qui a disparu complètement de nos jours.
On est sous un chêne, derrière les crématoires.
Oui, c'est une vieille arbre, témoin d'histoire.
Je suis architecte du paysage. Je m'occupe de tout ce qui est arbre dans ce lieu de mémoire. Et sous nos soins, nous avons environ 16 000 arbres. À Auschwitz et à Birkenau. Nous avons réalisé une sorte de catalogue d'arbres. Chaque arbre, il a son numéro, il est mesuré, alors toutes les mesures possibles, et il a son numéro. On peut le voir, par exemple, là-bas.
Mamy sporo drzew historycznych, które jesteśmy wskazać w stanie wskazać.
Nous avons beaucoup d'arbres historiques. Par exemple, dans le secteur B de F, l'hôpital de Birkenau, tous les arbres sont historiques et à l'identique dans le voisinage de crématorium 4 et 5. Alors, ça c'est l'endroit, si je peux ajouter, c'est cet endroit où les Sonderkommandos ont réalisé leurs photos.
Le crématorium 5, il est où ?
À environ 500 mètres.
Ziemia i pozostałości z czasów funkcjonowania obozu. Z całą pewnością trochę
ludzkie. Oui, la terre est sûrement les restes du passé, de l'histoire de ce lieu, sûrement des ossements, cendres humaines, du temps de guerre. La fin de l'année 44, c'est le démontage des fours crématoires, parti en fer. Ensuite, janvier 45, c'est la destruction au moyen d'explosifs. Et ensuite, le nettoyage fait après la libération, au moment de la création de ce lieu de mémoire. Alors, ce sont ces restes que nous avons décidé de garder comme ruine de l'installation 5, oui. Juste derrière vous, les photos prises par Sonderkommando. Et là, deux photos situées à droite ont été probablement réalisées par une porte de cette installation. Vous pouvez comparer avec ces deux marches et ensuite l'endroit où se trouvaient les fosses. Vous voyez sur les photos que la clôture, barbelin.
Ce qu'on voit, c'est une sorte de champ, vert et plat.
Et ensuite,
les gravats d'un bâtiment qui s'est effondré, entouré par une bande de plastique qui interdit d'approcher. Et puis plus loin, des arbres hauts et indifférents.
Elle a été prise par la salle des fours crématoires. Alors, vous voyez
d'autres gravats et trois panneaux où sont reproduites et recadrées trois des quatre photographies prises en août 1944 par Alberto Herrera, un membre des Sonderkommando, les déportés affectés au crématoire.
Vous voyez que, par exemple, la photo située en face, en milieu, elle est prise probablement par un... pas de l'intérieur d'un bâtiment, par une porte ouverte légèrement. Nous supposons, mais c'est juste supposition, qu'il s'agit de cette porte, d'accord ? Alberto Herrera, il reste caché là-bas. Oui, oui, hein, ce ne sont pas les photos originales, c'est ça, ce sont les photos recadrées pour le besoin de l'exposition, bien sûr, oui.
Ces photographies, elles ont été prises dans un certain ordre. Et vous avez souligné l'importance de les considérer comme un ensemble, les quatre ensembles qui disent quelque chose.
L'ordre est sujet à discussion, puisqu'il n'y a pas d'original, il y a une planche contact, mais on ne sait pas dans quel, si ça a été imprimé dans un sens ou dans l'autre.
Georges Didier Huberman.
Peu importe. Pour répondre à votre question, je dirais que... il n'y a jamais une image toute seule.
Philosophe et historien de l'art.
Considérer une image comme si c'était la chose à voir, la seule, est assez dangereux. Parce qu'une image n'existe jamais toute seule. Il y en a quatre et puis il y en a une qui, en particulier, qui semble ne rien représenter, ce qui n'est pas vrai du tout. D'une part, elle représente la cime des arbres, disons. D'autre part... elle témoigne du mouvement du photographe et donc ce mouvement, c'est être nerveux, c'est être assez avoir peur, c'est se cacher, c'est tout ce que vous voulez qu'on peut imaginer. Alors on pourra me dire, bah oui, mais t'as pas la preuve. Mais bon, l'image, elle tremble de peur et il faut parler de ça. Ces quatre photos font partie d'un ensemble. Et cet ensemble, c'est un projet de soulèvement du Sonderkommando, qui a eu lieu d'ailleurs, où Alberto Herrera a perdu la vie avant même le déclenchement du soulèvement. Mais bon, ce soulèvement, il était en train de l'organiser. Et dans l'organisation, il y avait caché des témoignages, faire les photos et tout un tas de choses. Voilà.
Dans les images qu'on a, il y a ces quatre images des Sonderkommando. Et il y a les images de l'album d'Auschwitz. Ce sont des images diamétralement opposées. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors, ce sont des images diamétralement opposées. En même temps, il faut faire attention à plusieurs choses. Il n'y a pas que ces deux séries d'images.
Tal Brutman,
qui nous sont parvenues.
Historien.
Il y en a énormément. On a tout un ensemble de photos aériennes prises par les Alliés, par exemple, qui disent beaucoup de choses également. Il y a plein d'autres photos qui ont été prises par les SS qui montrent d'autres aspects. En l'occurrence, les photos de sept albums d'Auschwitz et les quatre photos prises par Alberto Herrera, qui est un membre du Sonderkommando, sont celles qui montrent le centre de mise à mort et le sort des Juifs en particulier. Mais il faut rajouter encore un point très important, il y a d'autres images. Ce sont les dessins qui ont été produits par les rescapés ou même par des gens qui sont morts sur le site et qui témoignent aussi visuellement de ce processus-là. Maintenant, ce qui est communément appelé l'album d'Auschwitz, en fait l'album de Lili Jacob, qui montre l'arrivée des convois de juifs de Hongrie, est un album qui a été réalisé par les SS pour montrer comment ils travaillent bien. Et donc, s'adressant à leurs supérieurs, ils ont gommé toute la dimension de contrainte, de violence, qui permet de canaliser les troupeaux, c'est comme ça qu'ils le montrent, de juifs. Au contraire, Alberto Herrera, dans des... circonstances totalement folles, extraordinaires dans le plein sens du mot, au péril de sa vie, prend ses quatre photos clandestinement, donc avec un cadrage qui dit beaucoup de choses, de ce qui se déroule sur le site. Évidemment que lui, veut témoigner d'autre chose, parce que ces photos sont un témoignage. Il faut vraiment comprendre la nature de ces documents-là, pas pour prouver. Herrera ne pense pas qu'il ait besoin de prouver quoi que ce soit, il est plongé là-dedans, il sait que ça se passe. Il veut témoigner, montrer, certains l'ont fait par écrit, d'autres par le dessin, comme David Oller qui a dessiné sur le site, puis qui a reproduit à nouveau ses dessins, puis qui les a perdus lors de l'évacuation. Et lui choisit la photo, et ils ont pu trouver un appareil photo. Les photos prises par Herrera sont plus importantes que les quelques 200 photos de l'album de Lily Jacob, parce que on a quelqu'un qui essaie de montrer au plus près la réalité. Évidemment qu'elles paraissent moins intéressantes, parce que ce qu'on veut, nous, intuitivement, c'est une reproduction du réel, qui nous paraît fiable. Herrera s'est pris de travers, mal cadré, flou, alors que ça dit énormément de choses. Et les photos prises par les deux photographes SS et peut-être même par Rudolf Höss sont des photos qui sont destinées à montrer la parfaite organisation de cette immense opération de déportation et d'assassinat qui est la plus importante de toute la solution finale. Le projet, c'est de tuer plus de 600 000 juifs en 3 mois sur le site. Et là, c'est vraiment un album d'autopromotion. Il faut prendre ces photos pour cette raison-là. Et ça nous échappe parce qu'on ne comprend pas le signifie qui s'en dégage. On voit des juifs calmes, ce qui est faux, on le sait. On voit des SS calmes, ce qui est faux, on le sait. Mais c'est ce que eux veulent montrer à leurs supérieurs. C'est pas des photos qui nous sont destinées. Montrer que les juifs sont tellement bêtes qu'ils ont même pas besoin de les cogner pour avancer. Ce qui est faux. Et on peut même le voir à travers des éléments dans les photos. Puis on peut pas comprendre le cynisme qui se détache des photos où les SS passent leur temps, les photographes, à s'amuser de leur savoir au détriment des victimes. C'est-à-dire les faire poser devant une chambre à gaz. Ça les fait rire. Mais nous, on voit pas que ça les fait rire. Nous, on voit des victimes. Sauf que la photo dit pas ça. Elle montre pas des victimes. Elle montre exactement ce que le SS veut montrer, c'est regarder ces idiots, ils ne comprennent pas quand on les photographie devant le bâtiment dans lequel ils vont être assassinés. En fait, il faut vraiment en prendre conscience quand on regarde ces images, parce que ces images disent autre chose que ce qu'on veut voir. Donc les images produites par Herrera, elles disent la réalité. La réalité qui est, on tue en masse, je prends ces photos clandestinement au péril de ma vie. De toute façon, tout ce qui se passe pour lui est au péril de sa vie. Et voilà ce que je vous livre. Et non pas le peu qu'il y a à voir, mais le peu qu'il y a à voir en matière de concret. On se dit, bon, c'est impressionnant, certes, mais on ne voit pas grand-chose. Si, on voit énormément de choses. L'album d'Auschwitz, il a cette particularité, c'est d'avoir fixé la représentation qu'ont les gens de la Shoah à Auschwitz. Sauf que cet album, les photos qui constituent cet album, qui sont mondialement connues, que tout le monde a vu à un moment ou à un autre, soit à l'école, soit en regardant un documentaire, un reportage dans la presse, elles sont toujours utilisées pour tous les motifs, pas juste Auschwitz, pour évoquer la Shoah, pour évoquer la Seconde Guerre mondiale, ces photos sont utilisées.
Sur cette photo, vous voyez une sélection avec un médecin SS.
Mais elles ont ce titre particulier qu'elles sont prises en printemps, été 1944, et que du coup tout le monde se représente Auschwitz comme fonctionnant de cette manière, c'est-à-dire les convois qui déversent les juifs à Birkenau, de jour, etc., etc. Sauf que de 1942 à mai 44, les convois de juifs arrivent à 1 kilomètre de Birkenau, pas du tout là où on voit ces photos qui ont été prises. L'immense majorité des convois arrivent de nuit pour des raisons liées à la logistique et au fonctionnement du site. Donc de nuit, il n'y a pas de photos. Donc les photos de l'album d'Ida Auschwitz, ou l'album de Lily Jacob, elles ont cristallisé une représentation qui ne correspond qu'à une période, qui est la dernière de fonctionnement d'Auschwitz, là où Birkenau est le centre de mise à mort le plus rationalisé, avec des trains qui arrivent au pied des deux grandes chambres à gaz, et où vous avez un flot continu, en particulier de juifs de Hongrie, qui sont assassinés. Il faut vraiment comprendre que ce qu'on a en tête et ce qu'on visite en partie, c'est le Birkenau de 1944, celui qui existe dans les 6 derniers mois de fonctionnement du site, qui a peu de rapport avec le Birkenau qui a existé avant. Simplement que cet immense quadrilatère, qui est constitué de 3 tranches successives de camps, chacune de ces tranches a été construite dans le temps. Et en 1942, il n'y a que le camp, ce qui va être appelé le camp des femmes, la tranche B1, qui est séparée de plus d'1,5 km des chambres à gaz. Et on va assister à quelque chose de relativement simple, mais qu'on comprend mal, c'est que le camp le quadrilatère va s'étirer dans une direction, et que le centre de mise à mort, les chambres à gaz, vont s'étirer dans une autre direction. Que tout va finir par s'agglomérer, on a l'impression que tout est dans tout. Alors qu'on a deux structures totalement différentes, quasiment hermétiquement séparées, elles le sont du fait des barbelés, mais aussi du fait des politiques qui sont mises en œuvre, on a l'impression qu'il n'y a pas de distinction. Et quand on visite, on se déplace de l'un à l'autre sans faire gaffe qu'on passe d'un espace à un autre à travers des barbelés, puisque les barbelés ont été aménagés pour nous visiteurs. Et ce Birkenau, qui a préexisté avant 1944, n'est plus visible. Et donc on a l'impression que les chambres à gaz et le camp, c'est la même chose, alors qu'elles ont toujours été séparées physiquement, y compris en 1944. Les photos de l'album, elles montrent cette dernière phase de fonctionnement du site. Et on a l'impression que ça a toujours fonctionné comme ça. Alors que si on avait des photos de 42 ou de 43, ça montrerait un site qui est totalement différent. Par exemple, le Mirador Central n'existe pas jusqu'à 1944. Il est construit en 1943 avec d'abord une tour, puis une première aile, puis une dernière aile. La gare, donc là, ce que les SS appellent la rampe, là où les Hongrois arrivent et les photos sont prises, elle rentre en chantier en septembre 43 et elle est achevée en mai, enfin pas achevée, elle rentre en fonctionnement en mai 44, elle sera jamais achevée. Ça aurait dû ressembler à une gare avec des bâtiments de gare et le chantier ne sera jamais terminé. En fait, Birkenau est un chantier permanent, comme Auschwitz a été un chantier permanent dans son ensemble. Ces photos-là correspondent à ce qu'on peut voir quand on le visite. Et donc on se dit, c'est comme ça que l'histoire s'est déroulée. Non, ces photos ne correspondent qu'à une période très tardive dans l'histoire de cet immense site.
Nous espérons parvenir à résoudre l'insoluble en nous attachant obstinément à ce qui est resté. Le lieu, les pierres, les cendres. Ce ne sont pas les morts que nous honorons à travers ces restes disgracieux et insignifiants des crimes passés. Nous les collectionnons et nous les conservons. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous en avons besoin. Ne serait-il pas là pour d'abord faire revivre notre malaise puis l'apaiser à nouveau? Le nœud inextricable que laisse derrière lui la violation d'un tabou comme le génocide ou l'infanticide se change en spectre éternellement errant auquel nous concédons un lieu qu'il a le droit de hanter. Rejet peureux de toute comparaison possible. Affirmation du caractère unique de ce crime. Cela ne doit jamais se reproduire. De toute façon, la même chose ne se produit jamais deux fois. Dans cette mesure, un événement est toujours unique, au même titre qu'une personne ou même un chien. Une partie de ce qui s'est passé dans les camps se reproduit et se reproduira en maints endroits, aujourd'hui et demain. Et les camps de concentration n'étaient eux-mêmes que des imitations, certes uniques, d'agissements d'avant-hier.
Quand vous dites un endroit qui doit parler, est-ce que cet endroit il dit toujours la même chose depuis 80 ans ?
Non, sûrement que non. La mémoire, ce n'est pas une manière de regarder le passé. La mémoire, c'est quelque chose qui se vit aujourd'hui. Elle aujourd'hui change. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule mémoire. La mémoire, c'est quelque chose que je perçois comme profondément polyphonique. Chaque génération a ses propres mémoires. La mémoire, c'est quelque chose qui change, non seulement au vu des cultures, des religions, des différentes sociétés, mais aussi au vu du temps, au vu des générations. Donc forcément, ça, il y a une évolution dans la manière de vivre la mémoire.
Alors, si on ne parle pas de transmettre la mémoire, on peut parler de transmettre des informations. Est-ce que, par exemple, le travail des historiens influence le discours des guides? Et dans quelle mesure il y a un nouveau discours qui peut être produit, notamment avec la nouvelle école historique?
Bon, d'un côté, oui, la mémoire, c'est quelque chose de complètement différent que l'éducation historique ou que l'histoire. L'histoire et la mémoire, ce sont deux choses différentes. Il est bien que qu'elles ne s'opposent pas l'une à l'autre. La factographie est quand même la partie peut-être la plus scientifique ou la plus exacte de l'histoire. Et c'est un peu ça le but, je veux dire, que la mémoire ne commence pas à vaguer sur des terrains qui sont détachés de l'historique. C'est un danger aussi, bien sûr. Il est clair qu'il y a une évolution du travail historique qui concerne Auschwitz. Là, cette année, on vient de sortir une nouvelle chronologie de l'histoire du camp, en 5 volumes. Pour l'instant, elle n'est accessible qu'en polonais. On est en train de lancer une traduction vers l'anglais, en premier. Étant donné que la dernière chronologie qui a été publiée, elle a été publiée au début des années 90. Donc, au bout d'une trentaine d'années, il est très clair qu'il y a des faits nouveaux, qu'il y a des interprétations nouvelles, qu'il y a des dates nouvelles, qu'il y a des données nouvelles. Les archives ont été intégrées dans cette recherche. Il a fallu le retravailler, en fait.
Il y a en Pologne, depuis plus d'une vingtaine d'années, une nouvelle école historique qui a travaillé notamment sur l'histoire de la Pologne et l'histoire de... une autre histoire de la Shoah en Pologne, on pourrait dire, une histoire parallèle à l'histoire allemande. Est-ce que cette histoire, elle croise aussi celle du musée ou celle du lieu ?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que la nouvelle école historiographique polonaise ne s'est pas intéressée à Auschwitz, ce qui n'est pas un reproche. Elle s'est intéressée à d'autres sujets qui concernent le sort des Juifs en Pologne pendant la guerre. Ce qui montre aussi, d'une certaine façon, qu'Auschwitz n'est pas perçu comme étant quelque chose de polonais. Qui serait, pourtant, il y a 300 000 juifs de Pologne qui ont été envoyés à Auschwitz pour y être tués. Et même avant même le déclenchement de la solution finale à Auschwitz en 1942, il y a des milliers de, voire des dizaines de milliers de prisonniers juifs polonais qui sont envoyés à Auschwitz. Mais Auschwitz ne fait pas partie des travaux de cette nouvelle école polonaise. C'est pas un reproche, c'est juste un constat. On pourrait presque dire, c'est un impensé. Ça fait pas partie de ce qui a été étudié. Il y avait tellement de choses à étudier de toute façon qu'ils ont déjà bien assez à faire. Et voilà.
La nouvelle école historique qui est née en Pologne à la suite de la publication des Voisins, elle semble s'être intéressée assez peu au musée d'Auschwitz en tant que tel.
Oui, en fait, je dois dire que parce que moi j'étais dans ce petit groupe d'historiens qui s'est lancé dans la recherche à peu près dans le même temps que Jan Gross a publié son livre.
Jan Grabowski, historien.
Nous avons surtout regardé, pas vraiment la question mémorielle. Moi, comme historien, par exemple, je te peux intéresser par la question mémorielle. Moi, je voulais sortir des archives ou des gens l'information, qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, donc, la question comme représentation d'Auschwitz dans les musées, c'était vraiment secondaire. C'était très loin de mes intérêts parce qu'il y avait tas de choses que nous avions encore à faire dans les archives. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on est parti vers les campagnes, vers la région rurale, même dans les villes. Il y a plusieurs publications de notre centre à qui je fais partie dans ce moment-là, centre de recherche sur la Shoah de Varsovie. Nous avons publié plusieurs volumes d'études, des livres, de monographies. Donc, les questions mémorielles m'ont commencé à frapper il y a peut-être 15 ans. C'était beaucoup plus loin, mais dans un moment donné, je me suis rendu compte que nous faisons nos recherches, nous publions nos livres, nos articles, qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas un impact sur les curricula dans les écoles, par exemple. Rien de ce que nous avons fait pendant 20 dernières années n'a été transféré dans le programme, dans les écoles. Au niveau de représentation dans les musées, encore pire. Auschwitz est un bon exemple, en fait, mais c'est un sujet assez long. C'est un endroit qui forme des milliers de gens. Mais à cette époque-là, je n'étais pas intéressé. Je commençais à devenir vraiment fasciné même par la représentation dans quelques dernières années seulement.
Et aujourd'hui, vous parlez de polonisation du musée.
Aujourd'hui, je parle de... Auschwitz est devenu vraiment maintenant un des centres de cette on peut l'appeler politique historique de l'État polonais. C'est surtout, on peut dire, ce que Auschwitz ne fait pas. Auschwitz, dans sa direction, qui ont une obligation vers les victimes de la Shoah, n'ont pas rempli ce mandat. Le directeur lui-même, maintenant, s'arrange de côté de nationalistes polonais travaillant dans, soi-disant, Institut Pilecki, qui est une organisation que j'appelle négationniste, pendant que la presse nationaliste, les instituts nationalistes ont complètement changer l'histoire de l'Auschwitz dans le domaine public. Auschwitz n'a rien dit. Donc Auschwitz est devenu maintenant, comme je dis, en Pologne, pour la majorité des Polonais, le centre de notre tragédie nationale. Et malheureusement, je tiens musée d'Auschwitz responsable, co-responsable pour cette évolution. Dans le cadre d'Auschwitz, ce qui s'est fait, c'est que on a, comme les historiens le savent très bien, le plus grand public que c'est un peu moins. On a en fait trois camps. On a le premier camp, ce sont les baraques rouges que tout le monde connaît avec l'inscription Arbeit macht frei, le travail rend libre, mais c'est le camp de concentration où les gens meuraient et vivaient. Mais Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, c'est le camp d'extermination destiné uniquement pour les juifs. Alors ce que les autorités polonaises, incluant le musée d'Auschwitz, font aujourd'hui, c'est la tentative réussi de mêler les deux ensemble. C'est-à-dire, on fait, ici, on a le camp, notre camp, Auschwitz 1, camp de concentration, avec non 70 000 victimes polonais. On a le camp juif, c'est-à-dire Auschwitz 2, où on a 1,1 million de juifs tués. On met ensemble, on mélange ces deux discours. Et de cette façon, on a une tragédie, non plus tragédie juive, on a une tragédie humaine. L'autre chose, ce qui m'a complètement bouleversé, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, pendant une des campagnes antisémites en Pologne, qui de temps en temps explosait sous les nationalistes. Bon, le média d'Auschwitz, ils ont leur média, et commence à dire que la plupart des victimes polonais ont péri dans les chambres à gaz. C'est de cette façon, en fait, appropriant les chambres à gaz à la tragédie, à la souffrance polonaise. Et complètement inexcusable. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passe là-bas, qui me rend vraiment très triste. Mais c'est encore, bon, la situation est encore pire à Treblinka et dans les autres musées.
Dans votre dernier livre, qui n'est pas encore paru en français, vous citez un sondage révélant qu'en 2021, 71% de Polonais pensaient que les Polonais avaient souffert autant ou plus que les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.
Effectivement, un des sondages de 21 ou 22 dit que 71% des Polonais sont convaincus que la nation polonaise a souffert autant ou plus que les Juifs pendant la guerre. Donc, si on cherche une preuve que la politique mémorielle de l'État polonais est réussie, il ne faut pas regarder plus loin. Si dans le territoire où l'Holocauste a été commis, où on a mis à mort presque 5 des 6 millions de victimes, si on compte le territoire de la Pologne d'avant-guerre, donc si on a une société qui témoignait, qui a entouré l'Holocauste, que tout le monde, en fait, presque tout le monde, était témoin, parce que l'Holocauste est tellement public, hein, c'est-à-dire on peut pas retirer d'une nation 3 millions de citoyens sans que les autres s'en perçoivent. Et donc, si on a de tels chiffres 3 générations plus tard, ça veut dire que la politique mémorielle des États polonais, qui est basé sur les mensonges, sur la fausse, profondément fausse vision de l'histoire, réussit.
La tendance en Pologne, parfois, c'est de repoloniser cette histoire après un gouvernement d'extrême droite qui a imposé des lois mémorielles ignobles, on peut dire, pour les historiens, et qui a quand même bâillonné beaucoup la recherche, qui a du mal à se faire entendre, et qui n'est pas diffusée dans les écoles. Est-ce que vous diriez que le musée délivre un discours de polonisation, en fait, de la Shoah ?
Absolument pas. Depuis que le musée est rentré dans la période démocratique de la Pologne, son discours est un discours qui est peu ou prou conforme à l'histoire. Ça ne veut pas dire que tous les historiens vont être d'accord avec le narratif qui a été mis en place par le musée, mais il n'y a rien de particulièrement choquant aujourd'hui quand vous visitez le musée par rapport à l'histoire de la Shoah, par exemple. Et le directeur du musée a été la cible du pouvoir du PiS, une vraie cible, parce qu'il refusait de poloniser, comme vous dites, cette histoire-là. C'est pas tant de poloniser que d'introduire un discours politique dicté par le gouvernement. Il a été attaqué par tout un ensemble d'organisations d'extrême droite polonaise qui l'accusaient de servir la soupe aux juifs, pour faire simple. Donc non, ce qu'on peut constater quand on visite le musée aujourd'hui, c'est un musée qui, en conformité avec les travaux des historiens, ceux du musée, comme ceux qui sont extérieurs au musée. Et Auschwitz a toujours été le lieu de polémiques régulières autour d'à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut être le Carmel d'Auschwitz, par exemple, ou le n'importe quoi sur le fait d'ouvrir un restaurant à proximité d'Auschwitz. Les polémiques, elles sont permanentes. En revanche, en ce qui concerne ce qui est dit au sein du musée, il n'y a pas eu de polémique récemment, pour une raison qui est, somme toute, facilement entendable. Il n'y a pas matière.
Quand vous prenez une décision en tant que directeur du musée d'Auschwitz, vous engagez le musée, vous engagez le nom d'Auschwitz. Est-ce que cette décision, vous la prenez seule ?
Ça dépend, ça dépend. Et il y a des décisions où il n'y a pas d'exemple au monde sur lequel on puisse s'appuyer. Il y a des décisions qui ne sont jamais idéales, où on choisit entre des solutions... qui ne sont pas idéales. Et à ce moment-là, soit on a des discussions ici au sein de l'équipe, soit on discute certaines choses avec un conseil qui a été mis en place au début des années 90, qui s'appelle donc le Conseil international d'Auschwitz, qui regroupe 25 experts un peu du monde entier. Parce qu'il y a des décisions qui dépassent en fait l'imagination d'une seule personne. Il faut vraiment trouver un consensus.
Par exemple, sur quel point ?
Par exemple... que faire des cheveux qui restent ? Les années passent, ces cheveux vieillissent aussi. Ils sont dans une condition de plus en plus mauvaise. C'est normal, je dirais. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, mais c'est quelque chose qui se passe tout simplement d'une manière naturelle. Alors, il y a eu toute une discussion, dont je me souviens très bien, qui a duré plusieurs heures. Il y a eu plusieurs différentes voix qui sont prononcées. Certaines personnes un peu plus orthodoxes disaient que ce sont quand même des parties du corps des victimes, donc il aurait fallu les ensevelir quelque part. D'autres disaient que le fait qu'elles ont été coupées et séparées de ces victimes est un fait historique, donc on ne peut pas le nier en le cachant. Et d'autres disaient que le rôle... excusez-moi, éducatif est si important qu'elles doivent être préservées, qu'il faudrait les conserver. Les conservateurs ont répondu que oui, mais conserver un cheveu, c'est quelque chose que l'on sait faire, je veux dire, des perruques du XVIIe siècle ou des cheveux des momies égyptiennes, techniquement c'est possible. Mais conserver un cheveu, en fait, c'est de l'enduire d'une chimie qui est un peu comme dans les publicités des shampoings, je veux dire, remplace ce qui manque par de l'artificiel. Donc au bout de 4 ou 5 conservations, on aurait en fait quelque chose qui n'aurait plus vraiment eu. Enfin, le cheveu n'existerait plus en tant que tel, ça serait plus que de la perruque, si vous voulez.
On fait disparaître oui. Par la conservation.
Voilà, on pourrait le voir, même en fait, si quelqu'un commencerait par exemple à l'analyser chimiquement ou microbiologique, etc., il s'apercevrait que c'est du faux. Donc c'est une longue discussion, et je me souviens que même des grandes autorités qui ne sont plus parmi nous, comme le professeur Gutmann de Yad Vashem, avaient dit que ils se sont incapables de prendre une décision, ils ne se sentent pas propriétaires de ces cheveux au sens décisif, et que si elles sont là, il vaut mieux ne rien faire avec. Même si l'on sait que, bon ben, dans un certain temps, elles vont devenir plus que de la poussière. Je sais pas, 30, 40, 50, 100 ans. Mais qu'en fait, personne n'a vraiment le droit de prendre une décision là-dessus. C'était une discussion très émouvante et très, très profonde, en fait, profondément morale. On est arrivé à des raisons éthiques, en fait. Et autour de cela, un consensus a été établi. On essaye de les maintenir dans les meilleures conditions que possible. mais on ne les conserve pas et on ne les ensevelit pas.
Les photos qui représentent l'intérieur du baraquement du Canada 1, ce sont les montagnes de peignes, brosses à dents, à cheveux, à câbles. Ici à gauche, les montagnes de chaussures, chaussures d'hommes, de femmes et d'enfants. Et la dernière photo, c'est un baraquement rempli d'habits, des habits, de vêtements, robes, jupe, pantalon, manteau, des tonnes.
La contradiction, c'est qu'on a dépassé les 2 millions de visiteurs. Bon, c'est pas un lieu qui a été fait pour qu'il y ait 2 millions de visiteurs.
Annette Viviorca.
Donc, on aménage les choses pour que ce soit possible.
Historienne.
Alors, on a vu des hôtels. Il n'y avait pas d'hôtel à Auschwitz, puis un hôtel, deux hôtels, trois hôtels, avec des hôtels de luxe, des hôtels de moins, des hôtels genre auberge de jeunesse. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait la cacophonie quand vous aviez en même temps un groupe de Japonais, un groupe de Coréens, un groupe de Polonais. Donc, on a équipé tout le monde de petits écouteurs. Ça veut dire que la technologie, elle suit. Donc, chaque fois qu'on s'indigne pour quelque chose. Je me souviens l'été où Piotr Sivinski a fait installer des brumisateurs un été de canicule. Pourquoi est-ce qu'il a fait installer des brumisateurs ? Parce que les gens s'évanouissaient. Donc là, scandale, des brumisateurs à Auschwitz. Mais tout est scandaleux. Marceline Loridan, quand elle se rend compte qu'il faut payer je sais pas combien de slotis pour aller faire pipi, ça l'indigne. Mais on est constamment indigné. Vous avez 2 millions de visiteurs, il faut bien qu'ils aillent aux toilettes, il faut bien qu'ils mangent, et pour certains d'entre eux, il faut bien qu'ils se logent. Donc à partir de ce moment-là, on est dans une dynamique avec aussi cette espèce de paradoxe. Régulièrement, c'est un marronnier. Il y a un journaliste qui va, qui s'indigne, mais lui, il veut y aller. C'est-à-dire, tout le monde est indigné parce que l'autre y va, mais chacun veut y aller. Donc, c'est un lieu qui est un... Et peut-être que c'est bien que ce soit comme ça, ingérable, quoi.
Une fois, j'ai visité Dachau parce que des amis américains me l'avaient demandé. Tout était propre et bien rangé. Et il aurait fallu plus d'imagination que n'en ont la plupart des gens pour se représenter ce qui s'était passé là il y a 40 ans. Des pierres, du bois, des baraquements, la place de rassemblement. Le bois sent encore la résine. Sur la vaste place de rassemblement souffle un vent vivifiant et ces baraques auraient presque un air accueillant. Qu'est-ce qui peut vous venir à l'esprit ? L'association se fait plutôt avec un camp de vacances qu'avec la vie sous la torture. Plus d'un visiteur se dit sans doute en secret qu'il a finalement eu un sort plus pénible que les détenus de ce camp allemand bien organisé. Il y faudrait en plus, au minimum, les exhalations des corps humains, l'odeur et l'irradiation de la peur, l'agressivité accumulée, la vie réduite à rien. Certes, les photographies accrochées au mur, les données et les chiffres écrits et les documentaires ont leur utilité, mais le camp, en tant que lieu, localité, paysage, landscape, seascape. Il faudrait un mot, timescape peut-être, pour exprimer ce qu'est un lieu dans le temps, un lieu à une certaine époque, ni avant, ni après.
Alors, est-ce qu'on peut même prononcer ces mots ? Nous allons, nous sommes allés à Auschwitz. On visite le musée d'Auschwitz, on visite ce qui reste d'Auschwitz. On visite le site d'Auschwitz muséographié, tel qu'il est aujourd'hui, avec une guide, avec certains pavillons fermés, d'autres qu'il faut parcourir au pas de course, avec toujours trop peu de temps, et trop d'informations, et un bruit de fond constant de paroles qui peut-être sont censées rappeler, informer ou permettre d'imaginer. Mais comment oser même imaginer quoi que ce soit face à la mise en scène des objets amassés, des baraquements ou des miradors soigneusement refaits, des ruines protégées, des photographies exposées où cohabitent l'atroce ironie des nazis, la propagande de l'armée rouge et le désespoir des Sonderkommando. Et après tout, qu'est-ce qu'on croyait voir? Qu'est-ce qu'on venait voir? Quelle expérience authentique s'était-on promise dans ce lieu où peut-être rien ne reste-t-il? Sinon une certaine configuration de l'espace, une certaine lumière, quelque chose d'invisible que peut-être nous avons apporté avec nous et qui nous vient des pages de Primo Levi, de Charlotte Delbault, de Ruth Kluger, de Jean Améry, de Marcel Nadjari, de la voix de Simone Veil, de Marceline Oridan, d'Henri Borland, d'un dessin prémonitoire, a-t-on dit, de Robert Desnos, et de certains visages aimés que nous avons connus ou imaginés.
I would like to see more questions being asked.
Je voudrais voir poser plus de questions, des questions éthiques.
I'd like to see more poetry.
Je voudrais voir plus de poésie sur les panneaux.
I would like to get visitors to think more.
Je voudrais amener les visiteurs à réfléchir davantage à ce qu'ils voient, au lieu de leur offrir cette pornographie de la violence.
I think it's too literal at the moment.
Je trouve que le musée est trop littéral.
Of course, there is room for literal.
Bien sûr, il faut aussi des descriptions littérales de l'horreur et du mal qui ont régné dans le camp. Je ne dis pas qu'il faut les faire disparaître. Nous avons besoin d'informations historiques précises et sûres pour les visiteurs. Mais je crois que nous devrions aussi avoir plus de poésie.
Par exemple, où ils ont la poésie.
Il n'y a pas de poésie.
The inscriptions in the museum. And I think that this is something which should be included. I also think that there are many questions about Auschwitz which are not asked.
Je crois aussi qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas posées. Par exemple,
why is it in ruins?
Pourquoi ces ruines?
There are several reasons for that.
Il y a plusieurs explications.
One is, of course, the Germans destroyed the gas chambers in November and December.
Une d'elles, bien sûr, c'est que les Allemands ont détruit les chambres à gaz en novembre et décembre 44.
Another reason is that the buildings began to crumble after so many years.
Une autre, c'est que les bâtiments ont commencé à s'effondrer après un certain nombre d'années.
The local people took apart the barracks as building materials because there was a shortage of building materials in Poland.
C'est que les habitants des environs ont démonté les baraques pour prendre ce qu'ils pouvaient parce qu'il y avait une pénurie de matériel de construction en Pologne après la guerre.
The museum doesn't represent this history at all because it's not part of the history they want to tell.
Mais le musée ne montre rien de cet aspect de l'histoire. Ça ne fait pas partie du récit qu'ils veulent raconter.
The history of the camp as that they see. Much better to say that the buildings are in ruins because the Germans.
Mieux vaut dire que les bâtiments sont en ruines parce que les Allemands les ont détruits. Ça fait partie de l'histoire du camp.
But it's more complicated than that. Much more complicated.
Et c'est plus compliqué en réalité.
And I think that that's a real shame.
Bien plus compliqué.
It's not mentioned.
Et je trouve honteux que la vérité ne soit pas mentionnée.
I also think that we ought to have more reference to the ethnic mix of prisoners.
Je trouve aussi qu'il devrait y avoir davantage de mentions des différentes nationalités des détenus.
Polish Christians.
Les chrétiens polonais.
Soviet prisoners of war,
les prisonniers soviétiques,
and Sinti and Roma gypsies,
les tziganes.
The destruction of the gypsy camp on August the 2nd, 1944.
On n'insiste pas assez sur cet événement qui a été la destruction du camp des tziganes.
Not something which is mentioned really.
le 2 août 1944.
And I think, as I've said, the universe of obligation on people to realize that there was a big ethnic mix amongst the prisoners is something which needs to be given more attention.
Et oui, il faut souligner bien davantage la diversité des détenus.
It can be done in lots of different ways.
Ça peut être fait de bien des manières.
It could be done through art as well.
Par l'art, par exemple.
As well as poetry.
Comme par la poésie.
I think that we have to realize that the visitors are not all simply looking for factual information.
Nous devons bien comprendre que les visiteurs ne viennent pas seulement chercher des informations factuelles.
They need to be encouraged to think.
Ils doivent être incités à réfléchir.
And to ask questions about how this was possible.
À se demander comment cela a pu être possible.
What kind of person was it? Psychopathic maniacs.
Qui a pu faire ça? Les gardes étaient-ils tous des psychopathes?
What do we know about Rudolf Höss?
Qu'est-ce qu'on sait de Rudolf Höss qui a dirigé le camp?
Very little discussion.
Il y a très peu de choses sur lui au musée.
About the perpetrators.
Il y a très peu de choses sur les bourreaux.
Unfortunately, these problems.
Et puis, ces événements se reproduisent alors qu'on a répété comme un slogan « plus jamais ça ».
In fact,
en réalité,
les
peuples continuent à s'entretuer.
Merci à Tal Brutman, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme au XXe siècle. Piotr Sivinski, directeur du musée d'État Auschwitz-Birkenau. Georges Didier Huberman, philosophe et historien de l'art. Yann Grabowski, historien, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la Shoah en Pologne. À Jonathan Weber, anthropologue, ancien membre du Conseil international d'Auschwitz. Et merci à Annette Viviorka, historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, sans qui cette série d'émissions n'aurait pu avoir lieu. Textes extraits de Refus de témoigner, de Ruth Kluger, lus par Evelyne Istria. Merci à Gaëlle Gillon, voix française de Jonathan Weber. Et merci au musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz. Archivina Delphine André. Prise de son Benjamin Reyes, Jean-Benoît Tétu, Cédric Chatelus, Marie-Claire Oumabadi, Sébastien Royer, Élise Le. Mixage Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. Une série de Béatrice Leca et Yaël Mandelbaum.